Un résumé sans terminologie biblique aujourd'hui, l'homme vit dans un état spirituel bien inférieur à Dieu et inférieur à celui de nos ancêtres d'origine. L'homme a été créé pour être uni à Dieu fermement dans son cœur, afin qu'il le guide, l'enseigne et le conduise dans un état de joie et de bonheur perpétuel. L'homme en a joui un temps, mais a été tenté par un esprit opposé de devenir comme Dieu, décidant de ce qui est bien et de ce qui est mal, de prendre ses propres décisions, sans le conseil, la sagesse, la direction et la joie que procure la conduite de Dieu. Ainsi, chaque homme est devenu indépendant de la direction de Dieu, décidant ce qui est bien pour lui-même et ce qui est mal en pratique, chaque homme agissant comme son propre Dieu. De toute évidence, nous savons tous que des personnes différentes arrivent à des conclusions différentes. L'homme est devenu captif de ses convoitises, de ses plaisirs, de ses habitudes, de sa colère, de son orgueil et de la gratification de soi, par ce comportement centré sur lui-même, souvent au détriment de ce qui l'entoure. Chaque homme est devenu radicalement différent et inacceptable pour Dieu, à moins qu'un homme ne cherche l'aide de Dieu pour être changé et devenir acceptable à ses yeux. Il existe une histoire complète de la lutte de Dieu avec cet homme devenu nouvellement égoïste, y compris le fait de lui donner un ensemble de règles à suivre appelées la loi, transmise par Moïse. Mais cela n'a pas entraîné, à grande échelle, le rétablissement de l'homme dans l'unité avec Dieu. Ce rétablissement a été laissé à Dieu, qui a envoyé sur terre un homme parfait, né d'une femme, mais conçu par Dieu, l'homme nommé Jésus. Avant de venir sur terre comme homme, Jésus avait déjà créé les cieux et la terre, ayant été le premier-né de la création de Dieu, et en qui Dieu demeura ensuite pour gouverner les cieux et la terre. Jésus s'est dépouillé de sa gloire et de sa royauté, venant sur terre afin d'enseigner l'étape suivante dans la restauration de l'homme à Dieu. L'homme Jésus signifiant, un sauveur Christ signifiant, avec l'Esprit de Dieu a été tué par les religieux de son époque, qui n'ont pas reconnu le caractère de Dieu, et se sont cabrés contre la condamnation par Dieu de l'égoïsme, de l'orgueil et des rituels religieux sans changement de cœur. Jésus a beaucoup enseigné sur l'amour et sur la nécessité de faire mourir l'esprit égoïste en chacun de nous, afin que l'Esprit de Dieu puisse le remplacer, nous restaurant ainsi dans l'unité avec Dieu, puis de vivre une vie de joie, de paix, de foi, de bonté, de bienveillance, de patience et d'amour, tout en jouissant de la direction, du conseil, de la sagesse et du bonheur que donne la conduite de Dieu. Jésus est venu afin d'enseigner aux hommes et aux femmes comment revenir à la communion et au bonheur avec leur Créateur. Lorsque l'homme est tombé, il est resté en tous les hommes et toutes les femmes une semence de Dieu, appelée la lumière en l'homme. Christ est cette lumière qui se trouve dans nos consciences. Cette lumière nous fait nous sentir mal lorsque nous mentons ou volons, et elle nous supplie, silencieusement et anonymement, de nous détourner du mal. Cette lumière, en tous les hommes, a été la source de sagesse à travers les âges. La bonne nouvelle annoncée par Jésus était qu'en obéissant totalement à la lumière en eux, toute personne pouvait être libérée du péché et être unie à Dieu, en ayant communion avec lui au ciel, mais tout en étant encore sur terre. Chaque homme et chaque femme a son jour de visitation où l'Esprit de Dieu résonne avec lui pour changer sa conduite. Si nous écoutons le conseil de l'Esprit ou de la lumière en nous, nous recevons davantage de conseils. Si nous ignorons le conseil, Dieu nous ignore jusqu'à ce que nous décidions de rechercher son conseil et sa direction. Jésus a beaucoup enseigné sur la manière dont nous devons changer pour être agréables à Dieu, le plus célèbre étant son sermon sur la montagne, cliquez pour lire. Puis il nous a dit ce que nous devons faire pour trouver le vrai bonheur, la paix et la joie, faire de la recherche de Dieu la priorité suprême de notre vie, plus encore que la nourriture et les vêtements, et que si nous le faisions, tous nos besoins seraient satisfaits. Il nous a ensuite dit comment le chercher, la seule chose nécessaire, la bonne part qui ne sera jamais ôtée, venir à lui, s'asseoir à ses pieds et l'écouter nous parler. Cela s'appelle attendre Dieu. Attendre Dieu, c'est s'asseoir avec persévérance dans un silence humble, écouter sa voix et ses paroles, guetter ses révélations, entendre ses commandements, puis lui obéir. Seuls ceux qui l'écoutent et lui obéissent reçoivent les promesses éternelles de Dieu. Sans obéissance aux commandements entendus, il n'y a pas de progrès spirituel, mais l'obéissance conduit à la pureté et à la promesse de l'union avec Dieu, en entrant dans une autre dimension de conscience et de perception, le royaume des cieux. Jésus a dit qu'il était venu sur terre pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, qui ne vient pas avec des signes visibles, mais qui est au-dedans et autour de l'homme, une autre dimension dans ce même espace physique. Pendant que nous attendons Dieu, la voix et la lumière du Seigneur nous enseigneront ce qu'il faut cesser ou renier. La voix et la lumière nous montreront les défauts égoïstes de notre cœur. Et si nous regrettons les défauts qu'ils nous montrent, résolus à essayer d'être différents, ce qu'on appelle changer de conduite, ou se repentir, Il nous changera afin que nous puissions être différents, nous montrant nos défauts puis les retirant. En continuant d'attendre quotidiennement ses enseignements, il nous changera au fil du temps, un défaut à la fois, pour devenir pur. À mesure qu'il nous purifie, il se rapproche de nous, nous donnant la satisfaction de ses encouragements, de ses enseignements et de ses compréhensions concernant la vie de Dieu, à laquelle il veut nous restaurer. Par notre foi en ce que nous l'entendons nous enseigner, par notre croyance que nous écoutons Jésus, la parole et la lumière dans notre cœur, et par notre obéissance à ce qu'il nous commande de faire, Dieu retire alors, un à un, même le désir de pécher de notre cœur par sa grâce. Il promet la maîtrise de nos émotions et une paix éternelle. La plupart des gens n'ont jamais été informés que le péché, qui est inacceptable pour Dieu, comprend la colère, l'immoralité sexuelle, le désir d'avoir plus, tous les mensonges, la tromperie, l'envie, l'avidité, la débauche, l'ivrognerie, la haine, les disputes, l'absence de retenue, l'ambition, l'orgueil, etc. Tout ce qui est immoral, impur, ou tenu en estime égale ou supérieure à Dieu. Cependant, ces péchés ne vous disqualifient pas pour que la puissance merveilleuse et miséricordieuse de Dieu détruise votre nature pécheresse et la remplace par un cœur, un esprit et une pensée nouveaux, reflétant la vie même de Dieu. En attendant Dieu et en obéissant à ce qu'il commande, il nous purifie, purifiant notre cœur et notre âme. À l'issue de cette mort de l'esprit égoïste au-dedans d'une personne, Jésus s'unira à cette personne, créant une personne entièrement nouvelle, qui a la même apparence, mais dont la conscience est dans une dimension plus élevée, vivant dans la présence et la gloire de Dieu, avec le maximum de bonheur possible pour un être humain, servant Dieu avec amour envers ses semblables, une vie entièrement nouvelle par rapport à celle que nous avons connue. De la parole du Seigneur au-dedans, la vie nouvelle est aussi radicalement différente que celle d'un homme qui a vécu sous terre toute sa vie, venant soudain à la surface pour voir le soleil, le ciel, les plantes, les animaux, le vent, les étoiles. En 1690, le premier Quaker Stephen Crisp, qui demeurait dans le royaume, a témoigné qu'en un seul jour sous le gouvernement de Christ, dans le royaume, on a plus de joie, de plaisir et de délices que 1000 jours en dehors. Cette mort de l'esprit égoïste s'appelle la mort de la croix, à l'image de Christ mourant physiquement sur la croix. Mais notre croix n'est pas une croix physique, ce sont plutôt les actes d'abnégation et d'obéissance à ce que le Seigneur nous commande. L'abnégation commence par une attente quotidienne de Dieu, persévérante et patiente, en écoutant et en guettant ses commandements au lieu de poursuivre nos anciens plaisirs. L'abnégation consiste ensuite à obéir à tous les commandements que nous recevons de Dieu, en faisant « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et non la nôtre ». Voici la croix intérieure de l'abnégation Luc 9, 23. Puisque notre esprit et notre pensée sont égoïstes, en reniant le moi et par sa grâce, l'esprit tue lentement notre esprit égoïste, notre mentalité, nos manières, nos paroles et nos pensées. En attendant Dieu, nous recevons les enseignements de la grâce, les convictions de la grâce et l'éradication du péché par la grâce, aboutissant à notre salut par la grâce. Ainsi, si vous souhaitez plaire à votre Créateur, ou bénéficier de la sagesse de sa direction, ou connaître votre Créateur, ou être assuré de votre bonheur maximal pour toujours, vous chercherez à écouter et à suivre la direction de votre Créateur. Rechercher Dieu comme priorité suprême exige une forte motivation, que lui seul peut fournir, et si humblement, vous promettez à Dieu que vous ferez de votre mieux pour trouver sa volonté pour votre vie, il vous répondra par une merveilleuse révélation qui vous motivera à rendre cette expérience permanente. Dieu ne nous enlèvera jamais notre libre arbitre. Avant que le Seigneur n'enlève les maux de notre cœur, qu'il nous révèle, nous devons apprendre à haïr et à déplorer nos convoitises, nos addictions, notre orgueil et nos plaisirs. Nous devons les haïr à un point tel que nous n'envisagerions jamais de retourner à des schémas d'égoïsme ou de rébellion contre la direction de Dieu. Lorsque nous mourrons, si nous n'avons pas été purifiés ici sur terre, nous serons purifiés dans la vie suivante. La purification par la mort de l'esprit égoïste sur la croix n'est pas facile, mais la purification dans la vie suivante, appelée l'enfer, est bien plus douloureuse et difficile, et le résultat final après purification, bien que meilleur que la vie sur terre, est beaucoup moins satisfaisant que si nous sommes réconciliés avec Dieu dès ici-bas. La douleur, la durée et la difficulté en enfer sont directement proportionnelles au degré de notre autogratification dans cette vie. Ceux qui n'utilisent pas cette vie comme l'occasion de trouver l'union avec Dieu sur terre le regretteront pour toujours. Voir y a-t-il de l'espoir pour tous, pour en savoir plus sur ce processus de purification dans la vie suivante. Voici l'unique but de la vie, trouver Dieu et être uni à lui. Faites confiance à votre Créateur, Dieu est amour. Plus que tout, il veut nous changer afin que nous puissions être en sa compagnie, être aimés de lui et que nous l'aimions. Il est parfait, plein de miséricorde et de bonté, les bras ouverts, attendant ceux qui choisissent de lui plaire. Mais si nous sommes égoïstes, n'ayant pas appris à haïr notre colère, notre orgueil, nos convoitises et nos addictions, nous ne sommes pas aptes à être en la présence de Dieu. La réconciliation ne peut avoir lieu qu'après notre purification. Les églises dites chrétiennes d'aujourd'hui n'ont aucune idée de ce qu'est la repentance, la pureté, l'union avec Dieu et l'entrée dans le royaume de Dieu. Elles s'appuient sur des prières formulées de façon particulière, sur le fait d'être mouillées, de manger des hosties, boire du vin ou du jus de raisin, tout cela étant des rituels et cérémonies superstitieuses et païens, que vous êtes censés accepter comme vrais sans expérimenter vous-même la plénitude de l'union avec Dieu. Ce manque n'est guère surprenant quand on considère que les disciples et apôtres de Christ, Jean, Pierre, Paul et Jude, ont écrit au sujet de faux enseignants et prédicateurs à leur époque, et que dans le livre de l'Apocalypse, Jean a vu que le monde entier devait suivre les faux prophètes et la fausse Église, ce qui se produisit peu après. Au lieu de vous enseigner à écouter vous-même le Seigneur, les ministres de ces sectes déficients vous lisent la Bible et vous disent d'étudier la Bible pour grandir en tant que chrétien. Mais le Seigneur souhaite vous enseigner lui-même et non vous faire écouter des paroles lues dans un livre. Quand le Seigneur vous enseigne lui-même, et si vous croyez que ce que vous entendez est vrai et vient de lui, alors, et seulement alors, vous avez une vraie foi en Dieu, non pas une foi dans ce que quelqu'un vous a dit ou dans ce que vous avez lu, mais une foi dont Dieu est l'auteur et qu'il vous donne. Quand vous entendrez le Seigneur vous parler, vous serez transporté, votre foi grandira de façon exponentielle. Il est bon, il ne réprimande jamais. Ses paroles et ses visions sont comprises immédiatement. Ses doux rappels sur votre état sont facilement acceptés comme s'ils venaient d'un ami bienveillant ou d'un père. Il ne tient jamais de registre des torts. Malgré nos échecs, si nous les regrettons et décidons de faire mieux la fois suivante, il est toujours prêt à poursuivre notre amélioration. Il vous parlera de son amour pour vous. Il vous encouragera et vous félicitera pour vos réussites. Il est parfait. Il est le seul, le vrai maître, nous apprenant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, en nous donnant des instructions précises sur ce qu'il faut renier et abandonner, et à vivre avec sobriété, justice et piété dans le siècle présent. Note, ces écrits ne concernent que les premiers Quakers. Beaucoup des sectes Quakers d'aujourd'hui n'exigent même pas une croyance en Christ, ni même en Dieu. De nombreux livres ont été écrits entre 1650 et 1725 par les premiers Quakers en anglais, sans besoin de traduction, éliminant ainsi de nombreuses erreurs de traduction. Beaucoup de ces écrits se trouvent sur ce site, le journal de George Fox et les livres doctrinaux de Fox étant les plus importants. Ils témoignent tous que des milliers d'hommes et de femmes ont fait l'expérience de l'atteinte de la pureté et de l'union avec Dieu dans son royaume. Malheureusement, vers 1880, les Quakers avaient complètement perdu toute substance de la vraie religion et, aujourd'hui, n'exigent même plus une croyance en Dieu. Une brève histoire sur George Fox et les premiers Quakers est disponible, cliquez ici. Les premiers Quakers avaient trois témoignages attestant la validité de leur message de pureté, l'amour les uns pour les autres et l'amour pour leurs ennemis. Jésus a dit « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » À ceci tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34-35 Les Quakers furent massivement persécutés par les congrégationalistes, les épiscopaliens, les baptistes et les presbytériens. 13 000 Quakers furent emprisonnés, 200 envoyés en esclavage et 869 tués en prison ou par des foules hostiles de chrétiens. Des dizaines de milliers se virent saisir leurs biens pour n'avoir pas payé la dîme aux églises approuvées. À propos de ces vrais disciples, Jésus a dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, 20, de nombreux signes et miracles accompagnaient leur ministère et leur message. Ils partirent prêcher partout, tandis que le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait le message par les signes et miracles attestant étroitement qu'il accompagnait. Marc 16, 20 Le but de ce site est de vous montrer la véritable espérance de pureté, d'union avec Dieu et d'entrer au paradis, le royaume de Dieu, dès ici-bas, puis pour toujours. Il y a trois clés pour parvenir à cette espérance, toutes des clés de la puissance de Dieu agissant en vous pour vous transformer, croire en la promesse de pureté, d'union et d'entrée au paradis, le royaume de Dieu, croire au nom de Jésus-Christ, penser à son nom en attendant Dieu, porter la croix de Christ par l'abnégation et le repentir qui en résulte. Qu'il nous accorde, étant délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte dans la sainteté et la justice devant lui tous les jours de notre vie. Luc 1, 74 Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Hébreux 16 Tu me feras connaître le chemin de la vie. Dans ta présence est la plénitude de la joie, à ta droite des plaisirs pour toujours. Psalm 16, 11 écrit par le roi David, voir comment bénéficier de la puissance transformatrice de Dieu en attendant le Seigneur pour plus d'informations sur la manière d'entendre la voix du Seigneur, être éclairé, atteindre la paix et être restauré à la communion, et à l'union avec Dieu dans le royaume de Dieu.